Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 28 juillet 2025 à seulement 72 heures de la clôture mensuelle. Nous avons toujours un Bitcoin très proche des 120 000 à 119 500 ce matin, un Ether qui franchit les 3008 et qui vient se hisser même au-dessus des 3009, autour de 475 milliards de capitalisation, et on est désormais à plus 61% sur le mois et environ plus 160% si je dis pas de bêtises depuis le point bas, donc quand il avait touché autour de 1 400 $. Le BNB qui fait un nouvel ATH, 852 $, proche des 120 milliards de cap, plus 7% sur les dernières 24 heures, plus 32% sur le mois, et donc c'est direction tout droit, mon capitaine, vers les 1 000 $. Le contrôle psychologique, on verra dans un instant même qu'on pourrait le dépasser un petit peu. Le Tron a également une ligne dans l'intégrale dans le vert, c'est également le cas de Bitcoin Cash et de Avalanche qui a repris 50% ce mois-ci, 26,50 $, autour de 11 milliards de capitalisation à la 15e place. La DeFi ne se laisse pas compter avec Uniswap, pareil, 11 milliards de cap, 20e place, 56,57% sur le mois. Ethena qui est également dans l'intégralité dans le vert, 160% sur le mois. Faites attention avec ça puisque beaucoup disent qu'il y a pas mal d'exit de la part des VC, donc j'ai pas creusé de mon côté puisque je suis pas investi sur Ethena, mais faites gaffe à vous. Mental plus 40 sur le mois à la 36e place, on n'est plus que à 2,8 milliards de capitalisation, on voit que ça recule assez vite. Pudgy Penguins qui nous a poussé 235% en mensuel, 153 du côté de banque, donc les mêmes coins qui ont toujours la part belle, hein, pour les notamment particuliers. Et enfin, on clôture le top 50 avec Paul, anciennement Matic. Sky SPX 6900, encore un même coin qui capitalise 2 milliards, c'est fou. Et Official Trump, pareil, encore un même coin, 2,10 milliards de capitalisation. Là aussi, je vous laisse seul juge, mais ça démontre que l'appétit des mêmes coins n'a toujours pas disparu, en tout cas pour le moment. Au niveau du 4 heures, donc on est venu récemment, comme vous le savez, autour de 114-115, on a la borne haute avec l'ATH autour des 123 800, on a le crypto fear and greed à 75, proche de déclencher l'extrême euphorie. Ça pourrait arriver si on avait un Ether effectivement qui franchissait les 4000-4100 et qui se dirige immédiatement vers ces 4900 $ que constitue l'ATH. On va voir comment ça va se passer, mais en tout cas pour l'instant, tant que Bitcoin reste à peu près stable, et ça a l'air d'être le cas puisqu'on continue aussi d'avoir un peu des afflux qui viennent via les ETF, et bien que désormais petit à petit on a autant voire plus d'ETF qui rentrent sur l'Ether justement, ce qui fait que bah, petit à petit ça pousse pas mal son prix et on a ce rattrapage. Ceci étant dit, ça reste du rattrapage puisqu'on devrait déjà avoir un Ether qui est beaucoup plus haut, en tout cas si on s'en fie au ratio qu'on avait par le passé. Donc c'est positif et j'espère bien entendu que cette zone de 4000-4100 va enfin sauter comme un bouchon de champagne. En attendant, et des années plus tard après que vous nous l'aviez réclamé, vous avez enfin The Crypto Matrix du côté de toutes les plateformes de podcast qui reprendra absolument tout ce qu'on publie sur YouTube. Donc vous l'avez sur Apple, Spotify, Deezer, il y en a quelques autres, voilà, on a essayé d'en activer un maximum. N'hésitez pas à aller le rechercher, à vous le mettre en favori et à écouter désormais, si ça vous plaît mieux de votre côté, et bien tout simplement l'émission de CM du côté des plateformes de podcast. On part avec Axel Kibar qui nous mettait l'Eurostox 50 avec une épaule tête épaule inversée et un price target qui pourrait nous faire passer de 5400 points à 5740, et ça n'est pas un chart qui est mis en avant ici pour rien puisqu'on va parler justement de l'Europe et des États-Unis dans un instant avec un deal qui a été signé hier et qui pour l'instant semble assez désavantageux pour l'Europe mais très avantageux pour les États-Unis. On avait Goku donc et Sharplink Gaming qui ajoutent 77 210 Ethers supplémentaires à leur trésorerie pour environ 300 millions de dollars. La société détient désormais 438 000 Ethers pour une valeur de 1,7 milliard de dollars. Donc les trésoreries Ethereum Company, de même que bah, tout ce qui s'est passé autour de Bitcoin précédemment, ont la part belle en ce moment. Et plus le prix s'appréciera, plus ça risque de FOMO derrière. Et donc avec Loris Dalio et The Kobayashi Letter, l'Union Européenne va injecter 600 milliards de dollars de plus aux États-Unis. On parle ici d'énergie et de matériel américain, et notamment, voilà, il y avait le pétrole au milieu et l'armement. Donc, Je ne sais pas du tout si ça fait partie du plan, notamment de l'Europe, qui était de se réarmer et peut-être de faire un peu plus tourner l'économie localement. Est-ce qu'il y a également la dimension des conflits qui sont en cours pour avoir quelque part un peu le protectionnisme des Américains vis-à-vis de l'Europe, le bouclier des alliés qui reste un bouclier historique? Et donc aujourd'hui, on en vient à un accord qui, pour l'Europe, est pas mal défavorable, puisque c'est 0% de tarifs dans le sens Amérique-Europe, pour justement ces fameux tarifs de droits de douane. L'Europe pourrait acheter jusqu'à 750 milliards au niveau de l'énergie des États-Unis. Il y aurait également un deal du côté des automobiles et par rapport à un achat, ils disent vast amounts, mais bon, voilà, c'est un peu vaste justement comme mot et comme montant. Est-ce que ça pourrait également permettre de remettre des aides autour de tout ce qui est Tesla, etc. pour les automobiles américaines? Les tarifs sur les automobiles sont réduits à 15%. Et donc à aujourd'hui, et sans en mesurer là aussi une fois de plus toutes les conséquences et implications sur le moyen et long terme, on a un deal en effet qui semble avantageux pour les États-Unis. Donc est-ce que ça sera un levier qui vient tordre justement le bras à l'Europe vis-à-vis des États-Unis, qui va permettre de booster l'emploi aux États-Unis en risquant une hausse des prix, donc potentiellement aussi booster l'inflation pour les consommateurs et des tensions qui seront toujours plus importantes dans le futur pour la société? Certes, c'est une victoire et pas qu'un peu pour l'administration Trump, qui va permettre de faire rentrer énormément d'argent et peut-être par la suite, d'un point de vue politique, en 2026, qu'il va défendre la baisse des impôts, voire même certains pans entiers de la société qui pourront bénéficier d'exonérations d'impôts parce qu'il aura trouvé une manne financière complètement dingue de ce côté-là. Voilà, il y a des leviers qui sont en train d'être joués. Eux se félicitent, bien entendu, de tout ce qui aura été mis en place, puisque je crois qu'on parle d'une hausse selon les pays et selon les continents qui va de 15 justement à une trentaine de pourcents. Et en majorité, si on faisait une moyenne avant l'ère Trump, on était autour de 2,3%. À vérifier, c'est la statistique que j'ai vue passer ce matin. Donc pour vous donner un peu le delta de malade qu'ils viennent d'appliquer et qui aura forcément des conséquences malgré tout sur une économie qui aujourd'hui est rassurée d'avoir des chiffres et de savoir en termes de projection, et notamment dans le monde de la finance, ce sur quoi on va pouvoir se diriger, ce qui fait que les marchés vont continuer de monter, et une administration de Trump qui est prête à tout pour suralimenter des marchés qui sont déjà sur des ATH, puisque ça parlait également de stimulus check pour les plus pauvres des Américains, pour les aider, voilà, à joindre les deux bouts et qu'ils puissent consommer. Enfin, on est vraiment dans une fuite en avant là qui est assez extraordinaire, mais pour l'instant, bien entendu, que ça va faire très plaisir aux marchés, en tout cas sur le court et très moyen terme. Notre bon vieux Axel Kibar, qui nous proposait toujours le chart de BNB avec le long awaited breakout, c'est-à-dire on l'a attendu très longtemps et en effet, puisque ça a travaillé pendant des lustres entre 700 et 800 dollars. La target au-delà des 1000 dollars serait une target de rectangle, voire de petite consolidation en triangle ascendant ici, qui viendrait nous amener jusqu'à 1200 dollars. Là aussi, pas de quoi s'affoler sur les multiples, bien entendu. On parle de 800 à 1000, voire de 800 à 1200. Mais ça reste une petite performance pour ceux qui ont du BNB aujourd'hui, qui est loin d'être négligeable. Comme disait Benjamin Cohen, mais finalement, ça s'est résolu au cours de la soirée. Il y avait la problématique autour de ces tarifs qui étaient sans arrêt délayés par rapport à la Fed, qui, pour l'instant, ne leur permettait pas, eux aussi, de leur côté, de prendre des décisions par rapport à cette coupe de taux, puisque c'est vraiment là aussi le second bras de fer que mène Donald Trump en perso face à Jérôme Powell de la Fed, d'essayer à tout prix soit de l'éjecter, soit de le pousser à la démission. Mais en face, on a un vieux de la vieille qui a l'air bien droit dans ses bottes et qui a l'air de tanker pour l'instant. Donc est-ce que d'ici la fin d'année, voire à compter de la rentrée, on va avoir une première baisse de taux? Ça aussi, c'est ce qu'a l'air d'anticiper le marché. Une très bonne vidéo de Crypto Sapiens On-Chain autour de tout ce qui se passe on-chain, justement, c'est le mot. Donc on le recevra très certainement, on va en discuter entre nous là prochainement pour faire de temps en temps un update de marché. C'est pas encore fait, mais c'est quelque chose, le on-chain, qui est vérifiable et qui est tangible, puisque on peut voir le comportement en ligne tout simplement sur la blockchain de participants qui sont des participants historiques, les cohortes de whales qui ont des milliers, des dizaines de milliers de bitcoins, comment se comportent également un peu les ETF maintenant, comment se comportent les échangeurs, comment se comportent les participants participants retail, c'est-à-dire les particuliers, et en fonction de différentes métriques, on arrive à voir là aussi quand on est en phase de surchauffe. Donc peut-être que voilà, une fois par mois, si on arrivait à avoir un expert comme ça de l'on-chain qui vient nous décortiquer tout ça sur la chaîne, ça serait plutôt cool, et on va y travailler bien entendu pour que ça soit le cas. Jesse Cohen qui met en avant donc la super concentration au niveau des États-Unis des super 7, puisque précédemment c'était les super 7, maintenant on a les super 2 comme ils les appellent, c'est-à-dire Nvidia et Microsoft, qui à elles deux pèsent 15% donc du total du benchmark de cet indice du S&P 500. Et je crois avoir vu passer également hier, mais je veux pas vous dire de bêtises, je vous dis ça de tête, je crois que les deux là maintenant pèsent à elles seules l'intégralité du marché des 2225 ou 50 plus grandes sociétés du Japon. Donc l'intégralité du grand benchmark de l'équivalent du S&P 500, mais pour le Japon. Donc je sais pas où on va là pour les États-Unis, d'autant plus qu'on voit que vis-à-vis des tarifs et tout ça, ça risque de continuer bien lancé sur son rail au niveau de la super concentration. Voilà, en tout cas, on a des statistiques qui sont en train un peu de devenir effrayantes à ce niveau-là en termes de concentration. Journal du Coin et Galaxy Digital qui affirment avoir récemment permis la vente de plus de 80 000 bitcoins, 9 milliards pour le compte d'un investisseur de l'ère Satoshi, ce qui expliquerait là aussi ce qui s'est passé la dernière fois vis-à-vis de tous ces BTC et de tous ces mouvements de wallet un peu de la première heure. Ça continue malgré tout d'alimenter certains doutes sur le fait que si on a des wallets vieux de 14 ans en BTC qui se réveillent, est-ce qu'un jour ou l'autre on n'aura pas jusqu'au wallet de Satoshi Nakamoto? Et c'est ce qui tend parfois un peu les investisseurs, et je pense que c'est un risque qui aujourd'hui malgré tout doit être étudié, même jusqu'aux investisseurs institutionnels bien entendu, puisque ça pourrait avoir un impact sur le marché assez colossal. Les inflows, les outflows du côté des terres, puisque ça continue très très vite, je crois que en 5 jours on a investi à peu près 2 milliards d'inflows sur les ETF Ether, donc ça monte très vite à coup de 400-500 millions par jour, ce qui est également le cas sur Bitcoin, mais on était en léger recul par rapport à tout ça, parfois même Bitcoin étant en recul tandis que Ether continuait. Et on clôturera avec Génération Crypto et la hausse du Bitcoin qui ne repose pas sur les particuliers, c'est ce qu'explique un analyste de CryptoQuant qui montre que le rallye du Bitcoin est soutenu par l'accumulation continue des investisseurs institutionnels et des gros portefeuilles, au détriment bien entendu sur ce cycle, comme on l'a vu, des particuliers qui malheureusement étaient souvent positionnés du côté des altcoins et jusqu'ici tirent malheureusement un peu la langue, 3910 milliards avec une bougie mensuelle qui sera juste magnifique. On est sur 4 mois désormais de volume complètement fou, puisque ce mois de juillet nous aura permis de voir que oui, le marché crypto ne se laisse pas mourir même au milieu de l'été. Personnellement, j'ai été un des fervents défenseurs de dire que l'été serait en ventre mou, ce qui a été le cas jusqu'à approximativement fin juin, et derrière on a eu un mois de juillet complètement fou. Si on regarde toujours en point de vue statistique pur et dur, bien que depuis le début de ce cycle les statistiques nous chient littéralement dessus pour parler poliment, et bien août est censé être un mauvais mois pour le marché crypto, et septembre ça dépend des fois, ensuite octobre novembre c'est des très bons mois. Donc je vous donne la statistique, vu que en ce moment absolument tout nous fait l'inverse de ce qui s'est passé précédemment, peut-être qu'on aura un mois d'août complètement fou, mais là on est quand même sur 4 mois de hausse consécutive sur le BTC. On n'est plus dans les amplitudes qu'on a connues notamment en 2021, à chaque fois qu'on met comme ça entre 4 et 6 mois de hausse, on prend autant pour le digérer. Donc voilà, on est plutôt, et je reste tout à fait neutre quand je dis ça, sur la fin du cycle que sur le début de quelque chose. Par contre, oui, je suis assez d'accord avec les personnes qui disent que on rentre dans une nouvelle dimension pour le marché, peut-être même que le cycle de 4 ans s'en est allé sur ce cycle-là, de 2021 à 2025, et ensuite on va voir comment on composera justement avec ces institutionnels qui aujourd'hui sont à la croisée des chemins en mensuel ici, puisqu'on est autour de 70 de RSI en mensuel, et qu'il nous resterait dans le meilleur des cas, si on venait chercher la trend de très long terme, environ une grosse vingtaine de pourcents, 24-25%, toujours en mensuel, ce qui nous amènerait, comme on l'avait vu la dernière fois en faisant un peu des mesures d'apothicaire, autour de 4400 à un petit peu plus, peut-être 5000 milliards, sachant qu'on est à autour de 4000 aujourd'hui. Donc vous voyez que là aussi, il ne nous reste pas un upside complètement fou. Et hier, pour ceux que ça intéresserait, j'ai continué de faire mouliner au niveau de l'IA en lui posant énormément de questions, en recoupant, en le challengeant sur ce qu'il venait de trouver, etc. Au niveau de ChatGPT 4o, et on a une personne sur le Discord qui nous passe également les résultats encore plus poussés avec ChatGPT 3o. Et une fois de plus, à chaque fois, il il tombe sur les clous qu'on avait vus précédemment, c'est-à-dire autour de l'automne en terminaison haussière, un prix qui pourrait être entre justement ces 120-130 000 dollars à autour de 150-160 000 dollars. Là aussi, ça nous donne une fourchette. C'est une fourchette qui, pour certains, paraîtra grande, pour d'autres, pas énorme, mais ça nous démontre qu'on n'est pas sur des prix à 200, 300, 500 000, hein, comme on voit du côté des réseaux sociaux. Et deuxièmement, pour Ether, j'ai fait le même exercice. Et donc, il prend en considération justement en plus ce qui s'est déroulé sur ce cycle avec un Ether vachement en retard, voire parfois boudé. Et on aurait donc une zone et une estimation de prix qui, là, pour les alt, il n'est pas toujours d'accord. C'est soit autour de l'automne, soit jusqu'à décembre, voire janvier 2026 pour les altcoins. Ça peut tout à fait faire sens hein, si on a une alt season qui se développe un peu plus tardivement et que Bitcoin était venu chercher 150K, par exemple. Eh bien, on aurait un Ether entre les 4 à 5 000 dollars. Ça, c'était le scénario un peu pessimiste. Donc, on y est déjà quasiment et de venir chercher l'ATH sur lequel on se ferait repousser. Ensuite, on venait autour de 7 000 dollars, 7 000, 7 500, comme là aussi on l'a étudié précédemment. Et les projections les plus pessimistes allaient quelque part entre 10 et 15 000 dollars. Mais bon, là, ça voudrait dire vraiment que Ether a connu des inflows à hauteur de 500 millions, 1 milliard, de façon continue sur 3 mois, 6 mois. Ce qui peut paraître un peu trop boule, là aussi, une fois de plus, mais pourquoi pas hein. Je ne suis pas là pour saper les espoirs des personnes qui sont turbo boule. En tout cas, 1540 milliards pour les altes ce matin. Il faut péter les 1711 pour par la suite eh bien, rentrer en découverte de prix. Là aussi, ça semble pas si mal engagé pour les altcoins pour la suite. La Bitcoin dominance va bel et bien acter, si le mois se clôture comme ça, eh bien, un recul de à environ 5 points, puisqu'on est passé de 65-66 à 60 aujourd'hui, entre 60 et 61. Le ratio suivant serait autour de 55-56. Et si véritablement on avait une grosse alt season, là aussi on pourrait revenir quelque part entre 48 et 50. Je fais pas partie de ceux qui disent qu'on reverra beaucoup plus bas ici, entre 40 voire 35 du point bas de janvier 2018, vu comment on a eu des flux continus et un appétit du côté de Bitcoin. Je pense pas qu'il y ait une rotation à ce point monstre, mais voilà, je vous donne tout simplement les zones d'attrait qui peuvent paraître intéressantes pour la suite. Bitcoin qui bel et bien bloque lui pour l'instant, par contre on voit que contrairement à ce qui s'est passé notamment sur Ether qui est en train de tout pulvériser sur son passage, le train est lancé enfin, j'ai envie de dire, et bien Bitcoin voilà, ça commence à ralentir de nouveau dans la même zone qui a bloqué à plusieurs reprises sur ce cycle, mars 2024, novembre 2024, janvier 2025, un RSI autour de 76 en mensuel. Ça risque d'être une zone relativement dure, les 120. On peut aller chercher l'échappée belle hein, comme on l'a vu, 150 160, mais est-ce qu'on aura le jus supplémentaire pour aller chercher ça, d'autant plus si on commence à avoir la rotation sur les altcoins? Voilà, c'est la seule question que je me pose à court terme. Le ratio ETH-BTC qui nous aura enfin imprimé une bougie du Seigneur ici, on est passé en mensuel de 0.022 à 0.032. La zone de confluence suivante, comme vous le savez, est autour de 0.038 pour ne pas dire 0.04. On va voir si on y arrive, on va voir si on se fait repousser à partir de là. En tout cas, c'est un rebond assez majestueux d'environ 85% sur le ratio ETH-BTC, tandis que du côté du cours, lui, on a récupéré depuis le point bas, qui d'ailleurs en mensuel était venu pile poil s'asseoir sur la moyenne mobile 100 mois. Alors c'est la première fois qu'il le fait et c'est la première fois qu'on a cet historique-là de 100 mois qui vient s'imprimer sur l'écran. On avait le RSI mensuel, pareil, qui était autour de 42. On voit que historiquement, ça a déclenché des rebonds. Et là, toujours en mensuel, on est sur une zone de confluence. On a les points les plus hauts d'un point de vue de la trend, on a l'ERSI autour de 61, donc ça va être un peu, ça passe ou ça casse, les 4100 dollars pour Ether, et si ça passe, bien entendu, dans un premier temps, le franchissement de l'ATH, 4965, et ensuite on a une petite box, hein, on l'avait vu au niveau des FIBO, qui s'étale de 7500 à autour de 10-12 000 dollars. Là aussi, je me suis mis, pareil, en mensuel, les zones les plus hautes, hein, on a un RSI à venir chercher quelque part autour de 86 à 90 pour Ether. On est à 60 aujourd'hui. Si on prend en considération, et ça reste voilà des petits tips que je vous donne pour vous donner des fourchettes, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne fondamentalement. Faudrait faire des calculs beaucoup plus poussés pour que ça soit legit la façon dont on mesure ça. Le RSI a fait 43% pour faire de 1400 dollars à autour de 3900 aujourd'hui. Si on venait à faire une alt season complètement folle, on rajouterait près de nouveau 43% pour rallier autour de 88-90. Allez, soyons fous, on prend 90 de RSI, on rajoute 45% de RSI par rapport à aujourd'hui. Ce qui voudrait dire qu'au niveau du cours, eh bien, on pourrait rajouter au maximum par rapport au prix d'aujourd'hui de nouveau 180%, ce qui nous amènerait au max du max, voilà, autour justement de la zone des 11 000 dollars. Donc vous avez là l'amplitude maximale qui puisse arriver. Ça ne prend pas en considération des potentiels retracements en cours de route. Ça ne prend pas en considération le fait que le RSI peut s'affaiblir avant même que le cours commence à le faire lui-même. Donc ça reste des métriques que je mesure comme ça de temps en temps pour me faire un gros cadrage psychologique. Et d'un autre côté, quand on sait qu'on a un ATH de 2021 autour de 5000 dollars, est-ce que ça serait complètement fou de voir un Ether autour de 10-11 000 dollars? Je ne pense pas. Mais par contre, quand on prend en considération la façon dont s'est fait ce cycle et dont on a véritablement souffert cette action de prix sur Ether, certes, ça peut finir autour de 10 000 dollars, mais je pense que tout ce qui se passera entre 5000 et 7500, justement, va être propice à pas mal de prises de profit de toutes les personnes qui, justement, se sont fait laminer jusqu'ici sur Ether. Le dollar ce matin est à 98 points, juste en dessous. Là aussi, peut-être une stabilisation enfin. Et on a un S&P 500 qui réouvrira dans le vert à plus 0,50. Le bull run continue suite au V-bottom. Voilà, c'est la remontada express. On a un RSI mensuel quand même qui est désormais en surachat. On y reste parfois, notamment comme en 2018 ici. Mais tôt ou tard, il y aura un bon retracement des familles et qui viendra également impacter jusqu'au marché des crypto-monnaies. C'est pareil quand il y a des personnes qui disent oui, on n'aura plus de bear market, etc. pour le marché crypto. Eh bien, moi, tout simplement, je dis que je vise pour un futur bear market et pour Bitcoin, c'est assez simple finalement, autour de la moyenne mobile 200. Et la moyenne mobile 200, aujourd'hui, elle est à 50 000. Et si on fait une projection comme ça, au doigt mouillé de nouveau, avec cette petite moyenne mobile 200 qui va continuer de monter au travers du temps, on voit que d'ici janvier 2026, désormais, on sera même à 60 000. Donc, voir lors d'un futur bear market un Bitcoin approximativement entre moins 50 et moins 60% du prix qu'il aura chopé sur ce top-là, c'est clairement pas dramatique par rapport à ce qu'on a connu précédemment, qui était du moins 85 par deux fois, voire moins 89, moins 85, et autour de moins 77% sur ce cycle. Petit à petit, les amplitudes se diminuent, mais essayer de se rassurer en se disant qu'il n'y aura pas de bear market, je trouve ça un peu catastrophique, puisque ça, c'est des personnes derrière qui ne se paient jamais et qui malheureusement ont payé le lourd tribut de voir par la suite leur capital fondre comme neige au soleil. Après, comme d'hab, les personnes qui investissent en DCA sur Bitcoin pour 5 ou 10 ans, vous n'êtes pas la cible justement de prendre des profits réguliers en cours de route. Là, on parle pour des personnes qui sont là depuis plusieurs années ou qui ont fait de très belles entrées sur ce cycle. Quand on rentre sur Bitcoin à 15 000, pourquoi ne pas commencer à en sortir autour de 120 000? Voilà, là, ça fait sens, c'est clair. Le Nasdaq, pareil, 0,66, donc ça se passe très bien pour les États-Unis jusqu'à ce qu'un jour, ça se passe un peu moins bien, mais là ils ont réussi un peu le coup du siècle, hein. C'est même, j'ai envie d'appeler ça un braquage pour le coup. Et du côté des altcoins, eh bien en effet, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, le fameux BNB, on en a parlé régulièrement au cours de ce cycle. Pourquoi? Puisque c'était un des alts qui a le mieux subi entre guillemets cette phase baissière, c'est un des alts qui a le mieux tenu face à Bitcoin, c'est un des alts qui est venu faire un nouvel ATH en décembre 2024, c'était un ATH léger autour de 800 $, mais ça a eu le mérite d'être fait, et c'est un alt qui aujourd'hui, en effet, à 850 $, a peut-être la force encore d'aller chercher du 1000-1002. Mais dans tous les cas, vous voyez que si on vient chercher en termes de performance brute, eh ben, autour de 1000 $, ça nous fait 19%. Et si on vient à 1200, ça nous fait 40%. Donc, bien entendu que ça fait toujours plaisir de rentrer 20 ou 40%. Et bien que quand on voit les performances même de la bourse traditionnelle ces dernières années, ça peut faire office de pâle figure pour le coup quand on regarde par cet aspect-là du prisme. Mais ça nous démontre que c'est des actifs qui sont solides, qui sont robustes et qui sont là donc pour exister, pour briller. Et à ce compte-là, d'ailleurs, en termes de token de plateforme, il y avait également le Swissborg qui, depuis récemment, depuis un mois et demi, avait récupéré 78%. Et lui, la Confluence, maintenant qu'il est en train de travailler au-dessus des moyennes mobiles sera dans un premier temps de faire péter les 38 à 40 centimes. Pour pas faire de jaloux, le CROC qui est au contact de sa moyenne mobile 200 hebdo, 15 centimes approximativement, un point haut de décembre autour de 23-24 centimes et un ATH qui se trouve aujourd'hui à 95 centimes pour le CROC de crypto.com qui apparemment diluerait largement au travers du temps les 70% qui vont être remis au supply. Personnellement, j'ai vendu, c'est pas de retour et de regard en arrière. J'ai aucun regret par rapport à ce token, mais j'ai plus confiance vis-à-vis justement du fait qu'ils vont remettre ces 70% au marché. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des alts que vous pensez qu'ils sortent du lot par rapport à la liste. Je les inclurai aux prochaines analyses. Également, d'ici la rentrée, on va peut-être le mettre en place déjà au cours du mois d'août, mais c'est sûr que ça sera là d'ici la rentrée. À chaque fin d'émission, je répondrai nominativement à un commentaire, une question qui aura été posée, que ça soit sur la chaîne, sur une crypto en particulier, sur de la gestion de portefeuille ou tout ce qu'il vous plaira. On prendra systématiquement quelques instants en fin d'émission pour répondre aux commentaires du jour. Je souhaite une excellente journée, un excellent début de semaine. C'est une semaine un peu pivot, comme vous l'aurez compris, pour bon nombre de choses et notamment la clôture mensuelle. On continue de savourer du côté de Ether. On continue également un petit peu du côté de Bitcoin qui est stable. Et dans tous les cas, voilà, comme vous l'aurez compris, il y a des performances qui sont désormais, en tout cas, pour ce dernier semestre 2025, plutôt derrière nous que devant nous. Il nous reste un petit quelque chose à aller chercher, mais tout dépendra bien entendu de s'il y a une véritable alt-season. Et si alt-season il y a, de nouveau, on sera sur des multiples qui, à mon sens, resteront relativement contenus. Très bon début de semaine et je vous dis à mercredi. Ciao, ciao.